placard resteront sur le sol bien après nos années folles. Un rien de magie, nos cœurs posés sur la table. Supportable. Un rien de magie, nos cœurs posés sur la table. Rendrons la vie supportable.
Radio Libertaire 89.4, c'est l'émission Faites-nous des chansons, bientôt la fin. Alors pour le mot de la fin, notre ami Lo Glassman que nous recevons aujourd'hui va nous expliquer un peu qui joue sur ce morceau,
enfin,
sur
cette chanson. Ah oui, c'est là le j'avais envie d'en parler parce que je suis tombé amoureux de son solo de clarinette. C'est Vincent Locher que je ne connaissais pas avant ce projet, qui est venu, qui joue dans le projet d'une copine. Dans son projet chanson, et j'ai entendu une fois sur scène, et là pour le coup je suis allé l'appeler, je lui ai dit est-ce que tu voudrais bien, et qui est venu me faire ce magnifique solo de clarinette, derrière lequel, si vous prêtez l'attention, vous pourriez entendre le bruit de mes deux garçons en train de s'écharper l'un l'autre dans la pièce d'à côté, mais c'est subtil.
Il faut vraiment avoir l'oreille. Pauvres oreilles, nous sommes un peu sourds, c'est pas grave. Alors, voilà. Dis-moi, on va vite évoquer, on va redire aux auditeurs où on peut se procurer ton disque.
Alors, on peut acheter mon disque n'importe où. Il s'est distribué par Inouï Distribution, donc vous pouvez le commander chez votre disquaire ou votre libraire préféré. Vous pouvez l'avoir sur toutes vos plateformes, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Vous pouvez le commander directement auprès du distributeur Inouï Distribution. Voilà.
Et alors, on peut dire aussi ton site, Les Passeurs d'Ondes.
Alors, il y a le site www.lespasseursdondes.com au pluriel. Voilà. Et sinon,
il y a une date.
Il y a une date. Je vais jouer donc au bistrot L'Anecdote le 3 février 2024. Donc j'ai très très.
Préparez-vous, chers amis auditeurs.
Je suis très enthousiasmé par cet endroit. On y mange bien. C'est sympa. C'est un bistrot chanson où je vois que Nathalie Solence va jouer bientôt.
Le
4 novembre. Donc, elle pourra nous dire si ça s'est bien passé. Voilà, moi, ce sera le 3 février.
À quelle heure? À 20h aussi?
À 20h. Au 237 rue de Bercy, 75012 Paris, métro Gare de Lyon ou quai de la Râpée.
Voilà. Alors, tout ça sera indiqué sur ton site.
Ce sera évidemment indiqué sur
l'ensemble. Alors, merci Lo Glassman de ta venue. Merci
Pascal.
Merci beaucoup. Et puis, merci Nathalie. On passe le micro à notre ami Gaël de Radio Cartable, l'émission des écoles d'Ivry pour petits et grands. Bonjour Gaël.
Bonjour Pascal, merci beaucoup pour le passage d'antenne.
Les vacances ont été bonnes, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus.
On ne s'est pas vus depuis un moment. Elles étaient bien, mais ça fait un petit moment maintenant, les nouvelles approches.
D'accord, bonne émission et au revoir à tous et à toutes.
Merci.
Et donc effectivement, c'est l'heure de Radio Cartable sur 89.4 FM et je vous souhaite la bienvenue enfants d'Ivry, enfants des écoles d'Ivry ou non. Aujourd'hui, on va rediffuser un travail qui a été fait de nombreuses fois par de nombreuses classes d'Ivry, et c'est Ciné-Jeudi. Alors, cette rubrique est une rubrique de critique cinématographique. On y apprend donc, après avoir été fréquenter les œuvres au cinéma Le Luxy, à travailler son opinion, son avis de spectateur et de spectatrice. Donc on commence souvent par décrire le film que l'on a vu, de faire aussi sa fiche technique. Et ensuite, on débat de nos impressions. Cet exercice a été fait d'abord sur Kirikou la sorcière, par une classe de CE1B de Torres B, ensuite sur Tout en haut du monde, un film de Rémi Chaillet, puis sur Le roi et l'oiseau. Et on aura la chance ensuite de réécouter l'interview de Nicolas Azalbert, critique au Cahier du cinéma, qui avait été interviewé par les CM2 de l'école Langevin en 2016. Voilà, s'il nous reste du temps, on écoutera aussi la première partie de l'interview de Jean-Carl Feldis, grand bruiteur devant l'éternel, qui vient souvent dans les classes pour montrer ce que c'est que le bruitage. Et sinon, on laissera la place à l'émission Bibliomanie bien à l'heure aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a un invité en direct aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Bonjour, je m'appelle Aruna. À vous de vous présenter, les copines et les copains.
Kylian, Tanguy,
Kamel,
Aminata,
Redena,
Yanis,
Digiba,
Jessie,
Kaouta,
Jade,
Mathias,
Charlie,
Lucie,
Walid,
Nour,
Morgane,
Caroline,
Mathis,
Julien,
Gabriel,
Claudette,
Paul,
Grâce,
Brunel.
Nous sommes en CE1B dans l'école Maurice Thorez A.
Et notre maîtresse s'appelle Sabine Schrodel. Cette année, notre classe s'est inscrite à École et Cinéma.
Et nous allons donc voir 4 films au cinéma Le Luxy d'Ivry sur Seine entre octobre et juin.
Mais dis-nous Mathias, c'est quoi en fait École et Cinéma? Et puis ça sert à quoi surtout?
Eh bien écoute Caroline, École et Cinéma c'est un dispositif ouvert à toutes les classes de la grande section de maternelle au CM2.
Qui permet de découvrir le cinéma à travers plusieurs films de short époque et de nationalités différentes.
On peut donc être amené à voir des fictions, des documentaires, des films d'animation, des films en couleur ou en noir et blanc, des films en français ou bien présentés dans leur langue d'origine.
Ça nous permet donc de devenir des spectateurs curieux et respectueux envers toutes les formes de cinéma.
Pour cette première émission de l'année,
nous allons vous parler aujourd'hui de Kirikou et la sorcière.
Le village d'eau et les hommes avaient disparu. Les femmes pleuraient, tremblaient devant la sorcière. Qui que se savait où trouver notre grand-père. Kirikou, mon ami, nous a redonné la vie. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Sur la route des flamboyants, du haut de la case Caraba, les fétiches surveillent le village. Kirikou demande pourquoi Caraba est si méchante. Kirikou, mon ami, nous a redonné la vie. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais il est vaillant. C'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant.
C'est un film d'animation, c'est-à-dire un dessin animé en couleur.
C'est Michel Oslo qui est celui qui a fait le film. On dit qu'il en est le réalisateur. Il a d'ailleurs réalisé aussi Kirikou et les bêtes sauvages et assuré Asmar.
Il s'agit d'un film français réalisé en 1998.
C'est-à-dire il y a 10 ans, donc nous n'étions même pas nés.
Quand Kirikou et la sorcière est sorti pour la première fois dans les salles de cinéma.
Exact, Jade. Sachez également qu'il dure 70 minutes, c'est-à-dire 1h10, c'est assez court.
Et que la musique a été créée par un grand musicien africain qui s'appelle Youssou N'Dour et à qui on doit la célèbre chanson de Kirikou.
Bon, et bien maintenant, place à nos copains qui vont vous présenter l'histoire de Kirikou.
Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami.
Merci les copains de nous donner la parole. Nous allons en effet vous raconter l'histoire de Kirikou.
Et attention Paul, il ne faudra pas tout raconter, sinon les auditeurs n'auront plus envie de voir le film. Et ça serait bien dommage.
Ne t'inquiète pas Claudette, nous n'allons pas donner tous les détails de l'histoire, ni raconter tous les événements. Nous ne voulons pas gâcher votre plaisir de spectateur.
Dans un village d'Afrique, Kirikou est né et dès sa naissance, il parle comme un adulte.
Dans ce village, tous les habitants ont
peur de la méchante sorcière Karaba.
Mais grâce à son courage, le minuscule Kirikou sauve plusieurs fois les enfants des pièges de cette horrible sorcière.
Malgré cela, Kirikou n'est pas beaucoup aimé par les habitants du village.
Il décide alors de partir à la rencontre de son grand-père afin de découvrir pourquoi la sorcière Karaba est si méchante.
Son grand-père lui raconte que la sorcière n'aime pas les femmes et les enfants et qu'elle déteste les hommes depuis qu'on lui a planté une épine empoisonnée dans le dos.
Alors Kirikou décide de la sauver pour qu'elle laisse enfin tranquille les habitants de son village.
Les enfants aiment le samedi soir. Belle maman, allez. Belle maman, allez.
Bon, vous voyez bien qu'on ne vous a pas tout raconté. On n'allait quand même pas vous faire ça. À vous de découvrir vraiment Kirikou sur les écrans.
D'ailleurs, si vous le voulez, vous pouvez le trouver et même l'emprunter à la médiathèque d'Ivry. Alors n'hésitez pas à le demander au bibliothécaire et de le regarder chez vous.
Eh les copains, si on passait maintenant à nos équipes de petits critiques. À vous la parole les copains.
Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant.
Et c'est parti, les critiques en herbe des CAB prennent l'antenne.
Mais ça veut dire quoi, en fait, faire la critique de Kirikou et la sorcière? On est vraiment obligé de dire du mal de ce film-là?
Mais non, rassure-toi, Tigiba. Faire la critique d'un film, ça veut dire expliquer ce que l'on a aimé ou bien ce que l'on n'a pas aimé dans un film.
Ah d'accord, merci Jessie pour cette petite précision. On commence tout de suite par une critique collective écrite avec l'ensemble de la classe.
Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami.
Dans la classe, nous avons vraiment beaucoup aimé, voire même adorer Kirikou et la sorcière. Parce que le film se termine bien.
Parce que c'est non, non pas une histoire qui...
Parce que c'est un film d'animation très bien fait et très créatif. C'est-à-dire que les dessins sont vraiment originaux et magnifiques.
Parce que le méchant personnage du début, Karaba la sorcière, finit par devenir très gentil à la fin.
Parce que c'est drôle et amusant.
Parce que c'est l'histoire d'un enfant très courageux et qui en plus est très intelligent.
Parce que les chansons du film sont belles et que nous avons aussi envie de les chanter.
Parce que le village est très bien dessiné. Et aussi parce que Kirikou ne ment pas.
Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami.
Et maintenant, on va demander à nos petits critiques de nous parler de leur scène favorite du film.
Mon passage préféré, c'est quand les enfants étaient piégés par l'arbre de Karaba.
Moi, j'ai aimé quand Kirikou a failli se noyer et quand le vieil homme, c'est-à-dire le grand-père, a chanté.
Le passage que j'ai préféré, c'est quand les écureuils ont donné à manger à Kirikou. Mes passages préférés, c'est quand Kirikou a demandé à Karaba pourquoi elle était si méchante et quand Kirikou a vaincu tous les dangers pour aller voir son grand-père.
Mon passage préféré, c'est quand Kirikou réussit à rencontrer son grand-père pour savoir pourquoi Karaba est méchante.
Moi, c'est adoré quand Kirikou dansait sous la musique africaine.
Mon passage préféré, c'est quand Kirikou sort du ventre de sa maman.
Moi, c'est quand Kirikou a sauvé Karaba en lui retirant l'épine de son dos et aussi quand Kirikou est né et qu'il est sorti du ventre de sa maman.
Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami.
Eh bien voilà notre premier rendez-vous pour vous parler des films présentés dans le cadre d'École et Cinéma. C'est fini pour aujourd'hui.
Mais on se retrouve bientôt pour parler d'un nouveau film. En attendant, les élèves du CEAB vous souhaitent une bonne semaine et n'oubliez pas...
Films de cinéma!
Des élèves de Maurice Thorez de la classe de CM2A de Madame Médeville.
Vendredi 9 octobre 2020, nous sommes allés voir
un film au cinéma Le Luxy, Tout en haut du monde, réalisé par Rémi Chaillet.
Nous avions envie de vous le présenter
car ce film est très émouvant,
avec beaucoup d'aventures
et du suspense surtout.
Les voilà.
Aaron, est-ce que tu peux nous donner des informations sur le film?
Oui, bien sûr. Le réalisateur, c'est Rémi Chaillet. La sortie du film était en 2015. La durée du film est 80 minutes ou 1h20 si vous préférez. La musique est de Jonathan Morali.
Tout en haut du monde est un film d'animation, ce qui veut dire qu'il est sans acteur. Il est réalisé à partir d'une suite d'images fixes qui, en défilant, crée une impression de mouvement. Mélissa, peux-tu nous donner le synopsis de ce film, s'il te plaît ?
Bien sûr, Léo. En 1882, à Saint-Pétersbourg, en Russie, Sacha, jeune fille de 15 ans, veut retrouver son grand-père, Oloukine, disparu à bord de son navire, le Davaï, lors d'une expédition à la conquête du pôle Nord.
Tout d'abord, le personnage principal féminin, Sacha.
Voici notre fille Sacha, mademoiselle.
Une jeune fille de 15 ans, Sacha est une fille téméraire, intelligente et ne se laisse pas faire du tout.
Votre Altesse, excusez-moi de vous interrompre, mais je dois vous parler. C'est à propos de mon grand-père.
Mais je vous ai dit que
c'est
je partais
pour... Votre Altesse, mais dans 3 mois nous serons en plein hiver. L'accès au pôle sera impossible.
Elle est aussi courageuse que gentille. Et il y a aussi le grand-père de Sacha, Oloukine. Il avait un but très important. Son but était d'aller jusqu'au pôle Nord et de planter ce fameux drapeau que Sacha adore.
Mais ça veut dire que les recherches du Daval ont été faites au mauvais endroit.
Bon, admettons, tu peux pas attendre demain pour t'occuper de tout ça ?
Non.
Tu as raison, Mélissa. Et il y a aussi son bateau, le Daval. Le bateau du grand-père de Sacha. Un bateau qui coûte 1 million de roubles. C'est un grand brise-glace. Un des seuls qui existent en Russie.
Son bateau n'a toujours pas été retrouvé.
Les recherches du Davaï n'ont rien donné.
Mon personnage préféré est la patronne de l'ours blanc, Olga, parce qu'elle est sérieuse, mais au fond, elle est rigolote et gentille. Avec elle, Sacha ne s'ennuie jamais.
Vous pouvez me passer ma robe ?
Je t'ai trouvé cette blouse. Ta robe, je la garde au cas où t'aurais l'idée de me fausser compagnie. Fais pas la tête, je t'ai apporté une bonne catcha au lard pour bien commencer la journée.
Je peux avoir des blinis plutôt.
Avec du caviar aussi. Je te donne 10 minutes pour te préparer.
Léo, quel est ton moment préféré?
Mon moment préféré est quand elle retrouve son grand-père, elle prend le journal et elle le lit après avoir retrouvé le Davaï pendant le voyage du retour. On découvre que son grand-père, Olukin, a vécu beaucoup d'aventures. Et toi, Omeima, quel est ton personnage préféré?
Mon personnage préféré est Sacha, car c'est une fille qui traverse des aventures et qui est courageuse.
C'est pour sauver l'honneur de ma famille que je dois ramener le Davaï.
J'aime aussi Olga, car elle a aidé Sacha à aller au pôle Nord. Elle lui a appris que même les princesses peuvent faire la vaisselle ou à manger et plein d'autres choses. Et toi, Mélissa, c'est quoi ton personnage préféré?
Mon personnage préféré est Catch, car il est charmant, courageux et stratégique. Tout comme moi d'ailleurs. Je l'aime parce qu'il ne se laisse pas faire par les plus grands. Et toi Léo, qu'est-ce que ça t'a appris?
Ce film nous apprend que même les riches peuvent travailler, faire la vaisselle et servir à manger. De même, les filles et les garçons peuvent accomplir de grands exploits quand ils le veulent, malgré leur éducation.
Moi, j'aime beaucoup ce film parce qu'il m'apprend à ne jamais laisser quelqu'un en difficulté, c'est-à-dire être solidaire, comme le capitaine qui n'arrivait plus à marcher. Et les filles ne servent pas juste à faire le ménage, elles ont aussi le droit de s'aventurer où elles veulent et quand elles veulent. Et toi, Djalamba, qu'est-ce que t'apprends ce film?
J'aime ce film car il m'a appris la liberté féminine, la solidarité et aussi l'égalité entre hommes et femmes. La jeune fille Sacha veut être libre. Elle veut retrouver le Davaï ou plutôt retrouver son grand-père. Elle veut prouver à tout le monde que son grand-père est vivant. Et elle refuse d'être obligée de se marier avec le prince qui n'aime pas le musée qu'ils ont dédié à Olukin pour sa bravoure. Personne n'avait confiance en elle, mais ça montre qu'il faut avoir confiance en soi-même. Et toi, Tyrone, quelles sont tes impressions sur ce film?
J'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il nous apprend la solidarité, la liberté pour les filles de la haute société, l'égalité entre hommes et femmes et l'indépendance des filles.
Léa, pourquoi as-tu aimé le film?
J'aime bien ce film car il m'a appris la liberté et quand j'ai regardé ce film, je me suis évadée de mon quotidien. Il m'a permis d'aller découvrir de nouvelles choses comme le pôle Nord. Et toi, Riyad, qu'est-ce qui t'a appris ce film?
J'ai appris que les filles n'avaient pas de la liberté et que les garçons en avaient.
Tout en haut du monde nous a appris plein de choses. Par exemple, si tes parents ne sont pas d'accord avec toi, tu peux bien te défendre et aller de l'avant. Mais je ne sais pas si j'oserais faire ça, car je ne suis pas assez courageuse, mais vous, vous pouvez le faire. Et c'est bien de savoir qu'on peut le faire.
En avant, toutes!
À part nous porter malheur, elle va nous servir à rien, cette gamine.
Vous avez la trouille.
Le plus difficile commence maintenant.
Sacha !
Mais c'est tellement beau. J'aimerais que tu vois ça, ma petite Sacha.
Nous sommes la classe des CM2A de l'école Henri Barbus A.
Mardi 3 décembre, nous avons enregistré la classe des grandes sections de Corinne.
Hé Lilia, tu connais le film Le Roi et l'Oiseau?
Non, et toi?
Bah si, il y a de l'émotion dans ce film. On pleure, on est joyeux, on est surpris, on est triste.
Ah ouais, d'ailleurs, les élèves de la grande section vont nous dire ce qu'ils ont ressenti en voyant ce film au Luxi.
Le montage de cette émission a été réalisé par
Lilia,
Emmanuel,
Abdelkader
et moi, Mélanie.
Bonne écoute à tous!
Bonjour, nous sommes la classe des grands de l'école Henri Barbus. Notre maîtresse s'appelle Corinne.
Je m'appelle Keba.
Bonjour, je m'appelle Sarah Charlotte.
Bonjour, je m'appelle Inès.
Bonjour, je m'appelle Maëva.
Bonjour, je m'appelle Julia.
Bonjour, je m'appelle Maï.
Bonjour, je m'appelle Mojo Mohamed.
Bonjour, je m'appelle Ryan.
Bonjour, je m'appelle Mathis.
Nous sommes allés au cinéma. Regardez Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud.
Ça parle d'un roi très méchant qui veut épouser la bergère.
La bergère avec le ramoneur aussi voulait se marier. Ils vont se sauver tout l'été pour échapper au roi. Et il y a un oiseau qui les a aidés.
Dans notre film, nous avons eu peur. Nous avons été tristes, contents. Surpris.
Nous allons vous raconter de petits passages. À vous de deviner si on était triste ou joyeux ou peureux ou s'il y avait de la douleur.
Le robot du roi est très méchant et super grand. Et il a écrasé une maison. J'avais très très...
Quand le robot du roi a lancé le roi dans l'espace, il a dû se serrer très, très mal.
J'ai aimé quand le roi il est tombé sur la tête. J'étais très joyeuse.
Quand la bergère et le ramoneur se sont séparés,
j'ai pleuré.
Quand la bergère et le ramoneur sont sortis de leur peinture, j'étais très surpris.
À bientôt.
~14h46, mes chers auditeurs. C'est l'heure de retrouver Ciné Jeudi avec un invité de marque cette semaine. Il s'agit de Nicolas Azalbert, critique pour la revue Les Cahiers du Cinéma. Retrouvez cet entretien dans son intégralité sur Radio Cartable.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry-sur-Seine.
Tout d'abord, laissez-nous nous présenter. Nous sommes des élèves de la classe de CM2B de l'école Pan-Langevin.
Il y a Ansou.
Bonjour.
Syrah.
Bonjour.
Iman.
Bonjour.
Et enfin moi, Maë. Bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le critique cinéma Nicolas Azalbert, qui va nous présenter son métier et son travail au quotidien. Bonjour, monsieur Azalbert.
Bonjour à tous et merci de me recevoir.
Pendant l'interview, n'hésitez pas, chers auditeurs, à essayer de remplir la grille d'écoute.
Voici la première question. Tout d'abord, en quoi consiste votre métier ?
Alors, mon métier de critique consiste évidemment à voir beaucoup de films, énormément de films, et puis d'écrire dessus. Alors, souvent on croit que la critique c'est juste dire un film c'est bien, un film c'est mal. Or, je pense que la critique, une bonne critique, ça doit aller bien au-delà de ça, bien au-delà d'un jugement de goût, d'une simple opinion. Ça doit essayer de voir en quoi un film aborde un sujet, une histoire, un thème, de manière purement cinématographique. C'est-à-dire, y a deux choses que le cinéma traite, qui est la matière même du cinéma, c'est l'espace avec la mise en scène, la manière dont on filme les acteurs en mouvement ou pas, et le temps, et ça c'est le montage d'un film qui va nous restituer ce temps-là. Donc le critique, c'est celui qui va essayer, parce qu'il a vu beaucoup de films, parce qu'il connaît l'histoire du cinéma et qui sait comment on fait un film, d'essayer de voir, de dégager ce que un film apporte de par son traitement cinématographique. Et un critique, c'est donc quelqu'un qui, parce qu'il a peut-être plus de connaissances qu'un spectateur comme ça qui va aller voir un film en salle, le critique va lui permettre d'être un peu comme un intermédiaire entre le film et lui, pour peut-être pas lui expliquer, mais lui fournir des clés qu'il n'aurait pas à la simple vision du film. Et un critique, c'est aussi quelqu'un qui cherche à dialoguer avec le réalisateur. C'est-à-dire que souvent, un critique peut apporter, faire voir des choses que même le réalisateur, quand il a fait son film, peut-être de manière inconsciente, a mis des choses dans son film, et c'est au critique de lui faire voir aussi ce qu'il y a dans son film.
Aimez-vous votre travail et pourquoi ?
Je dirais que pour moi, l'activité de critique n'est pas un métier, mais une passion. Et en ça, c'est une grande chance, parce que tout le monde n'a pas justement la chance de pouvoir faire de sa passion son métier et vivre de sa passion. Donc, par rapport à ça, je suis effectivement très très content de faire ce métier-là. Et d'autant plus que dès l'âge de 13 ans, quand j'ai vraiment découvert le cinéma et que j'ai vu que c'est ce qui m'intéressait, j'avais toujours eu comme rêve, on va dire, d'un jour d'écrire peut-être dans la revue dans laquelle j'écris aujourd'hui, qui s'appelle Les Cahiers du cinéma. Et donc c'est une manière finalement d'avoir pu concrétiser ce rêve-là.
Pour qui travaillez-vous ? Qui est votre patron ?
Alors, dans la revue, nous sommes une dizaine à peu près de rédacteurs, de critiques, qui écrivons chaque mois. Et au-dessus de nous, il y a donc notre patron, on peut l'appeler comme ça, qui est le rédacteur en chef. Alors lui, c'est un peu comme un entraîneur de foot qui a 11 joueurs et puis qui doit les faire jouer ensemble. Donc il nous connaît tous très bien et il sait quels sont nos centres d'intérêt, nos spécialités. Et en fonction des thèmes et des sujets à traiter, il va demander à l'un plus qu'à l'autre de couvrir ce sujet-là. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de dialogue et de liberté et que chacun peut soumettre, proposer des sujets ou des films sur lesquels il a envie d'écrire.
Combien de films avez-vous critiqué dans votre carrière ?
Alors, je n'ai pas fait le calcul, mais comme ça fait 15 ans que j'écris pour les cahiers, je pense que j'ai dû écrire à peu près 500 textes, mais qui ne sont pas tous des critiques, puisqu'un critique fait aussi des entretiens avec des cinéastes ou des techniciens, et puis on fait aussi souvent des articles plus journalistiques, des enquêtes sur des cinématographies ou sur des corps de métier du cinéma. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est à peu près 500 textes.
Vous déplacez-vous beaucoup grâce à votre travail ? Par exemple, avez-vous déjà voyagé dans d'autres pays ?
Effectivement, quand on est critique, on est amené à parfois voyager, puisqu'on est amené à aller voir des films dans des festivals. On peut aussi aller faire des ateliers dans d'autres villes que Paris. Et puis, me concernant, j'ai développé des contacts très forts en Amérique du Sud. Donc, je voyage beaucoup là-bas. Et j'étais, par exemple, il y a 3 semaines en Colombie. Je pars à la fin de la semaine au Guatemala. Et le mois prochain, en Argentine. Donc, vous voyez qu'en travaillant comme critique, ça peut ouvrir beaucoup de portes et rencontrer voilà, d'autres pays, d'autres personnes, et c'est très enrichissant.
Quelles ont été vos études pour faire ce travail ?
Ce qui est très bien dans le monde du cinéma, c'est qu'il n'y a pas une voie principale, il n'y a pas une seule manière d'accéder à la critique, mais aussi à la réalisation. Et par exemple, me concernant, je n'ai pas beaucoup fait d'études, je suis pas allé plus loin que le baccalauréat. Et ma véritable école, ça a été la Cinémathèque de Toulouse, puisque j'ai longtemps habité à Toulouse. Et c'est là où je me suis vraiment formé mon propre goût en voyant énormément de films. Et j'allais tous les jours à la Cinémathèque de Toulouse voir 4-5 films par jour, discuter avec les gens après les séances. Et c'est comme ça que j'ai pu devenir critique, puisque la seule véritable école pour devenir critique, c'est vraiment d'avoir vu beaucoup de films et d'aimer beaucoup ça.
Avez-vous déjà travaillé dans un film comme acteur ou réalisateur par exemple ?
Il se trouve effectivement que, à côté de mon activité de critique, j'ai eu déjà l'occasion de pouvoir réaliser 3 films, 3 longs métrages, mais que vous avez certainement pas pu voir parce qu'ils sont pas sortis en salle. Ce sont pas des films commerciaux, c'est plutôt des recherches cinématographiques. Ce sont des films qu'on pourrait appeler comme des essais, qui sont un mélange de cinéma documentaire, de fiction et d'expérimental. Mais effectivement, c'est assez naturel de passer de critique à cinéaste. Et bien avant moi, dans les années, début des années 60, des critiques dans la revue dans laquelle j'écris, les Cahiers du cinéma, sont devenus des cinéastes très connus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jean-Luc Godard, François Truffaut par exemple, qui sont venus de là, qui étaient critiques avant de devenir cinéaste.
Est-ce que vous êtes allé voir L'Argent de poche ?
Oui.
Voilà, vous avez vu un film de François Truffaut.
Votre métier vous offre-t-il des avantages dans l'accès aux films, comme par exemple des avant-premières pour vous et votre famille ou vos amis ?
Il faut savoir que les critiques voient les films avant tout le monde, avant que les films sortent en salle et même avant les avant-premières. C'est ce qu'on appelle des projections de presse, où sont seulement conviées les critiques. En général, elles ont lieu un mois avant la sortie des films, pour que justement les critiques aient le temps d'écrire leurs textes et que les textes soient prêts et publiés au moment où les films sortent. En dehors de ça, on a aussi des cartes de presse qui nous permettent d'accéder gratuitement à toutes les salles de cinéma. Donc ça, c'est un super avantage. Mais voilà, comme ça concerne quand même le travail, on ne peut pas en faire bénéficier ni la famille ni les amis.
Avez-vous déjà rencontré des acteurs ou des réalisateurs célèbres ? Est-ce que ça a été facile de leur parler ou de travailler avec eux ?
J'ai davantage l'occasion de rencontrer des cinéastes plus que des acteurs. Je pense que les réalisateurs ont quand même en général plus de choses intéressantes à dire que les acteurs, parce que on peut voir un acteur comme finalement une note de musique, au même titre que d'autres notes de musique qui seraient la mise en scène, le son, le montage, les décors. Et le cinéaste, c'est vraiment le chef d'orchestre qui compose avec toutes ces notes-là pour faire un film. Et c'est pour ça qu'en général, quand on veut parler d'un film, c'est plus intéressant de parler avec le cinéaste.
Avez-vous déjà dû interviewer ou travailler dans le monde de la télévision ou des dessins animés ?
Comme je travaille donc dans la presse écrite, j'ai assez peu l'occasion de passer à la télévision. Ceci dit, il m'arrive effectivement parfois qu'on vienne me solliciter pour me demander de faire un entretien pour parler d'un cinéaste ou d'une cinématographie. Et auquel cas, effectivement, voilà, je passe à la télévision, mais c'est assez rare.
Avez-vous déjà critiqué des dessins animés ?
Alors personnellement, non, parce que j'ai un peu de problème avec les dessins animés, les films d'animation. Non pas qu'il n'y en ait pas des très bons, mais je laisse ça à d'autres. Au Cahier du cinéma, il y a des gens qui sont spécialisés et qui parlent très bien des films d'animation. Il se trouve que moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est vraiment le rapport au réel. Et donc, j'ai besoin de l'enregistrement de la réalité. Et comme un dessin animé, c'est tout est reconstruit, tout est dessiné à la main. Voilà, moi j'ai besoin de ce contact-là avec le réel, donc je ne vais pas souvent voir des dessins animés.
Avez-vous toujours préféré la réalité au virtuel ?
Oui, il se trouve que même quand j'avais votre âge, je m'intéressais beaucoup plus aux films de Charles Chaplin ou Buster Keaton que les dessins animés voilà, qu'on avait l'habitude de voir. Mais je sais que moi, voilà, j'ai vraiment toujours dès le début préféré le réel au virtuel, comme tu dis très bien.
Les réalisateurs sont-ils parfois mécontents quand vous avez trop critiqué un de leurs films ?
Alors c'est une bonne question. Effectivement, il y a des réalisateurs qui sont très mécontents à la lecture de certains de nos textes, mais souvent ils le font malheureusement de manière pas très courtoise. Mais ceci dit, c'est quand même très important pour nous parce que ça veut dire d'abord qu'ils nous ont lus. Et deuxièmement, ça veut dire qu'ils attachent quand même une importance à ce qu'on écrit, sinon ils se mettraient pas dans des états pareils. Donc pour nous, c'est très important, puisque un critique de cinéma, c'est quand même quelqu'un qui affirme son goût, et donc qui défend une idée du cinéma, et donc il ne peut pas défendre tous les films, il ne peut pas aimer tous les films, donc c'est normal qu'il se fasse des amis, et aussi des ennemis, et c'est très important de savoir choisir ses ennemis.
Quel est le film que vous avez préféré dans votre carrière de critique de cinéma ?
Alors ça, c'est une question très difficile parce que il y a énormément de très bons films, donc c'est quasiment impossible de dire tel film est mon préféré. Je parlerai plutôt de cinéaste, puisque plus qu'un film, ce qui nous intéresse aussi, c'est de défendre des cinéastes et une œuvre qui se forme de film en film, ce qu'on a appelé au cahier du cinéma la politique des auteurs. Donc un cinéaste est un auteur, et donc parmi les cinéastes, évidemment, dans toute l'histoire du cinéma, il y a un grand nombre de très très grands cinéastes, parmi lesquels, je sais pas, on peut citer en France Jean-Luc Godard, Robert Bresson, Jean Renoir, qui sont des cinéastes très très importants dans l'histoire du cinéma français.
Quelle serait votre critique d'E.T. ?
Alors j'ai vu E.T., je m'en souviens très bien parce que j'avais à peu près votre âge quand je l'ai vu, quand le film est sorti en salle. Je ne l'ai pas revu depuis, donc j'aurais un petit peu de mal comme ça à en parler. Le souvenir que je garde, et puis c'est un petit peu aussi ce qu'a fait Steven Spielberg, le réalisateur dans ses autres films, c'est un cinéaste donc de Hollywood qui est très efficace, qui a une mise en scène très efficace, mais que je trouve un peu limité dans le sens où dans chaque plan, il n'y a qu'une seule information. Donc c'est très efficace parce que tout de suite, on comprend le plan, on comprend ce qu'il veut dire, mais en même temps, c'est tellement évident et assez pauvre finalement en information, puisqu'il y a toujours une information par plan, qu'à la fin, ça devient de la communication. Et moi, ce que j'aime bien dans le cinéma, c'est que ça soit un moyen d'expression. Donc voilà, c'est un cinéaste intéressant, très talentueux, mais qui me touche pas tant que ça.
Voilà, l'interview est terminée. Nous vous remercions, monsieur, d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Merci à vous, c'était très intéressant d'y répondre.
Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés.
Nous vous disons à tous à jeudi prochain sur Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry.
Au revoir.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable.
Nous sommes les CM1B de l'école Jules Curie B.
Voici une nouvelle émission consacrée aux films qui sont diffusés dans le cadre du dispositif École et Cinéma.
Élodie, tu peux nous rappeler ce que c'est École et Cinéma ?
Eh bien, cela veut dire que toutes les classes qui sont inscrites s'engagent à aller voir les trois films proposés pour tous les élèves du cycle 3 du 94. Cela fait à peu près un film par trimestre.
Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Jean-Carl Ferdis.
Mais qui est-ce ?
Eh bien, c'est un bruiteur et un musicien pour le cinéma.
Voici la première partie de son interview.
Bonne écoute à tous !
Bonjour Jean-Carl, pourriez-vous vous présenter aux auditeurs de Radio Cartable ?
Oui, moi je suis musicien et bruiteur.
Comment devient-on bruiteur ? Existe-t-il une école ?
Alors, c'est une bonne question, jeune homme. Comment devient-on bruiteur ? Pouf ! Déjà, il faut avoir les oreilles assez ouvertes. Et moi, j'ai toujours aimé le bruit, le son, depuis que je suis tout petit. Alors, j'embête un peu toute ma famille depuis que je suis petit. Je tape sur la table, vous voyez. Quand je mange avec mes couverts, je joue, je fais des bruits, j'essaye des choses, j'écrase des jouets. Et comme je vous l'ai dit, je suis musicien. Donc, moi, j'ai commencé la musique assez tardivement, quand j'étais adolescent. Et du coup, quand on est musicien, en général, on aime bien le son. Enfin, moi, en tout cas, j'avais les oreilles très ouvertes. Et il n'y a aucune école de bruitage dans le monde. Ça n'existe pas. Donc ça, vraiment, soit on a de la famille qui sont bruiteurs dans le cinéma. Moi, je n'ai aucune famille qui est bruiteur dans le cinéma. Donc voilà, bah, j'ai appris un petit peu tout seul. Je me suis renseigné, j'ai été voir des gens travailler. Et puis comme je vous dis, j'ai toujours les oreilles ouvertes. Toujours, toujours, où que je sois. Là, par exemple, même dans la classe, si la maîtresse, peut-être, elle fait quelque chose, elle va manipuler un objet, peut-être moi, je vais l'entendre et je vais dire, tiens, ça m'intéresse, ou alors pas du tout.
Pourquoi et comment avez-vous choisi ce métier ?
Bah, j'ai envie de faire de la musique. Voilà, c'est comme ça, je rêvais de musique. Donc j'ai eu envie de faire mon groupe. Donc déjà, ça c'est pas facile les amis, parce que c'est un peu comme une famille. Et il faut essayer de trouver ceux avec qui on a envie de faire de la musique. C'est un peu comme une histoire d'amour. C'est pas facile de trouver quelqu'un avec qui on a envie de travailler, avec qui on s'entend, parce qu'au début, il n'y a pas d'argent en jeu. Hein. C'est uniquement d'avoir un esprit, on se rend compte, on essaie de se comprendre. Oui, on s'aime bien, allez, on va essayer de faire de la musique ensemble. Voilà, donc j'ai eu envie de faire de la musique. Et puis très vite, moi je faisais des bruitages, même sur ma guitare, sur les batteries. J'arrivais à essayer comme ça de faire des bruits un peu imagés, pas forcément des bruits très narratifs, pas forcément des bruits de pas, vous voyez, mais j'essayais, voilà, je mettais des choses sur ma guitare ou le piano. Vous avez jamais vu un pianiste gratter, tirer les cordes du piano ? Ça vous est jamais arrivé de voir ça ? Non, hein, bon, un jour peut-être vous verrez. On peut faire des bruits avec des instruments de musique, voilà. D'où l'idée m'est venue de faire des bruitages après.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer cette profession ?
À la base, un musicien, il doit faire un répertoire, monter, créer, composer de la musique et après la jouer devant un public. Et c'est dans les salles de concert. Et dans les salles de concert, des fois, il y a du monde, puis des fois, il n'y a personne. Et moi, j'ai eu la chance que des fois, il y a eu un petit peu de monde. Et dans le public, il y a eu un réalisateur. Et ce monsieur, dans la salle, a aimé ma musique et m'a demandé si je voulais bien travailler sur... Alors, il faisait des documentaires. Donc, j'ai dit oui, j'avais jamais essayé, ça me plaisait. Et voilà, j'ai commencé à travailler pour la télévision comme ça, grâce à un réalisateur qui m'a fait confiance. Et j'ai composé de la musique et j'étais pas encore bruiteur là, hein, officiellement. C'est après, voilà, j'ai commencé à devenir bruiteur, à mettre des vrais bruits sur des films.
Comment faites-vous pour créer des bruitages ?
Tout le monde a déjà vu un film, les enfants ?
Oui.
Et quand on regarde un film, les enfants, qu'est-ce qu'on entend ?
Du son.
Ah. Et à votre avis, on entend un son ou des sons ?
Des sons.
Eh oui, il y a beaucoup de sons dans les films, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a fallu qu'on les range un petit peu. Et on les a rangés, allez, je vais être sympa, dans trois grandes familles de sons que l'on peut peut-être entendre quand on regarde un film ou un dessin animé. Le bruitage. Donc c'est quoi le bruitage dans un film ? Donnez-moi des exemples.
La pluie.
Oui, la pluie par exemple.
Le vent.
Oui, le vent. Vas-y mon grand.
Le feu.
Le feu, génial. Il manque deux autres familles, vas-y.
Les gens qui parlent.
Eh oui, donc on dit la voix. Vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on entend la voix des personnages dans un film ?
Oui.
Et qu'est-ce qu'on fait avec sa voix dans un film à votre avis ?
On chante.
Eh oui, on peut chanter, bravo, on peut parler, chanter. Et il manque une famille, les enfants. On entend donc les bruitages dans un film, les voix, on peut rigoler, pleurer, chanter, parler. Et
la musique.
Eh oui, de la musique, vous êtes d'accord ou pas ?
Oui.
Donc, n'oubliez pas ces trois familles de sons, d'accord ? Et moi, j'interviens des fois sur les trois. Eh oui, des fois, je dois faire des voix, pas vraiment moi, mais j'ai une grosse voix, comme vous l'entendez. Et les bruitages, c'est là où c'est compliqué, parce que quelquefois, on travaille avec des disques, où on achète des disques où il y a plein de bruits enregistrés dessus, plein. Plein, 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 plein. Le bruit d'une ville, le vent, le son d'un feu. Et quelquefois, il faut qu'on les invente nous-mêmes. Et ça, c'est pas très facile. Et donc, j'ai amené des petites choses. Ça va peut-être rejoindre l'autre question. Qui veut me poser l'autre question ? J'anticipe.
Pouvez-vous nous faire une petite démonstration ?
Bon, j'ai pas ramené beaucoup de choses, hein, mais parce que... Sinon, il fallait être très chargé. Vous savez, les bruiteurs, on a beaucoup de valises. Alors déjà, j'ai ramené... tiens, on va essayer ça, déjà. Un truc bizarre. Bah, c'est quoi ça ? Bah, justement, c'est ma question. Ah, vous êtes pas loin. Alors, je vais sortir un truc que pas grand monde connaît. Ça, ça s'appelle une bobine. Non, pas une bobinette. Une bobine. Donc, ça s'appelle de la bande magnétique. À la base, on est d'accord, c'est pour le son, pour écouter de la musique. Moi, je pourrais m'en servir et enregistrer avec. Maintenant, on a des ordinateurs, heureusement. Mais ça me sert à un bruitage un peu bizarre. Donc, si par exemple, dans un film, j'ai une petite sorcière qui arrive, comme ça, elle marcherait, on l'entendrait marcher. Peut-être qu'elle ferait quoi avec sa voix, à votre avis ? Voilà, elle pourrait faire ça. Puis je crois que vous avez vu Les Trois Brigands ?
Oui.
Ah, il y a une chouette sorcière dans Les Trois Brigands. Hein. Moi, je l'adore, ce film. Elle arrive, elle va peut-être parler, et puis d'un seul coup, elle va ouvrir un petit placard. Ça pourrait faire quoi, à votre avis ?
Grincer.
Et moi, j'essaye de faire des grincements de porte avec ça. Donc, je tiens la bobine d'une main. Avec mon pouce, je vais appuyer le fil de cassette sur une table en bois. Bien sûr, celle-là, on va essayer. Hein. Et avec l'autre main, je vais glisser le fil entre mes deux doigts. Donc imaginons pour de faux hein, que la sorcière arrive, elle ouvre un petit placard et peut-être qu'on pourrait entendre ça. Merci. Déjà, vous devez me dire ce que j'imite comme son et après avec quel objet. Allez, fermez bien vos yeux.
Un pigeon.
Eh oui, plus facile d'avoir un gant avec moi qu'un vrai pigeon. Que le pauvre pigeon, hein. Et même quelquefois pour les oiseaux, pour imiter le son d'un oiseau, j'ai amené un appôt. Vous savez ce que c'est un appôt ? Ah, vas-y mon grand.
C'est un venir les bestioles pour
les canards. Exactement, pour les chasseurs. Et écoutez bien, quand on le tourne, il imite un petit oiseau. Plus ça. Bon, imaginons qu'on se promène en forêt pour de faux, et d'un seul coup, très très loin, il y a un cheval au galop. Voilà, vous pouvez regarder maintenant. Alors, j'ai pris un chiffon. Ensuite, je prends des entonnoirs. Des fois, il y a des bruiteurs parce que chacun a ses petits secrets. Eh oui, tout le monde dit pas ses secrets. Moi, je les garde. Des fois, je peux prendre des entonnoirs ou des noix de coco vides, hein, coupées en deux, pas pleines.
Est-ce que c'est la même chose de réaliser des bruitages pour le cinéma et le théâtre ? Selon vous, qu'est-ce qui est différent ?
La différence, ma belle, c'est qu'au cinéma, on travaille avec des ordinateurs. D'accord ? Et grâce à l'ordinateur, je peux m'amuser à essayer plein de choses. À enregistrer plusieurs fois, à mixer, ça veut dire quoi mixer ?
Mélanger,
bravo ! À modifier aussi, on peut modifier les sons. Donc au théâtre, je peux pas me permettre de faire ça, parce que si je le fais en direct, il faut que le son marche tout de suite. Donc si j'ai un oiseau à faire pour le cinéma, je peux essayer le gant, je peux essayer un autre chose, un tissu, et les superposer pour que ça fonctionne bien avec l'image. Au théâtre, je peux pas me permettre de faire ça, parce que si je le fais en direct, il faut que ça fonctionne tout de suite. C'est la seule petite différence, mais sinon le bruitage est un peu identique.
Y a-t-il des bruitages plus difficiles à réaliser que d'autres et pourquoi ?
Surtout au cinéma, on est toujours un petit peu obligé de tricher. L'autre fois, j'ai travaillé sur un court-métrage, c'est un film qui est court, et il y avait des papillons. Est-ce qu'on les entend, les papillons, dans la vraie vie ?
Non.
Mais au cinéma, est-ce qu'on les entend ?
Oui.
Oui, voilà toute la différence. C'est qu'au cinéma, je suis obligé de les faire entendre. Alors que je suis obligé de tricher. Parce que dans la vraie vie, on les entend pas. Sauf s'ils passent là dans l'oreille, hein, je vous l'accorde. Mais dans la vraie vie, je les entends pas, moi, aller sur les fleurs, butiner. Mais là, grâce à mon gant ou d'autres objets, je vais les faire sonoriser.
Que préférez-vous dans votre métier ?
Ce que je préfère dans mon métier, c'est la recherche. Essayer de trouver des choses. Ça me plaît beaucoup. Une fois que je les ai trouvés, ça me plaît moins. Enfin, je suis content de les avoir trouvés, mais après, j'ai envie de passer à autre chose. Comme en musique, moi, j'aime bien composer, essayer. Puis une fois que j'ai trouvé, ça y est, je sais le faire à peu près, plus ou moins bien. Je passe de l'autre côté. Voilà, ce qui me plaît, puis de voir des films aussi, des rencontres, vous voyez. Ça me plaît. Mais on est un peu loin du cinéma, mais en même temps, non. Vous voyez, Leslie qui est derrière, elle fait un chouette boulot à l'année, toute l'année avec vous. Elle montre des films, elle vient vous montrer comment on réalise des films, elle vous montre des professionnels de mon métier, ça c'est très chouette. Parce qu'après, on va au film et on voit un film, ça nous plaît ou pas. Hein. Mais ce que j'aime bien, c'est la recherche finalement.
C'est vous qui vous occupez des enregistrements. Comment enregistre-t-on des bruitages justement ?
En général, on est dans un studio d'enregistrement. C'est un peu un lieu comme ici où on n'entend pas un bruit. Il y a plein de machines, des très bons micros comme celui-là. Il y a souvent ce qu'on appelle un ingénieur du son. C'est un monsieur qui est, voilà, qui connaît très bien les micros, qui sait quel micro prendre, parce qu'on n'utilise pas toujours les mêmes micros. Il sait bien enregistrer et placer le micro, surtout. Vous avez vu, depuis tout à l'heure, il me suit pour bien avoir le son. Parce que s'il reste là, et moi je me mets ici, ça va être compliqué quand on va réécouter, parce que ma voix, elle sera proche ou loin.
Loin.
Voilà. Mais ça peut être voulu. Peut-être que pour un film, ça peut l'intéresser d'avoir une voix un peu éloignée. Ça, tout ça, c'est le travail d'un ingénieur du son. Moi, ce n'est pas mon métier, mais j'ai appris à le faire un petit peu, à placer des micros. Donc, on travaille avec une équipe, voilà. Et alors, des fois, si par exemple, j'ai un film qui se passe dans une ville, moi, je peux aller dans la ville, dans une ville qui me plaît, et enregistrer des sons avec un micro. Je me promène et j'enregistre des sons de ville.
Voilà, c'est terminé pour la première partie de notre émission.
On se retrouve la semaine prochaine pour la fin de cette interview.
Au revoir.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, avec aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux qui nous réservera, je n'en doute pas, certaines surprises. Et nous avons la grande joie de recevoir Toby Nathan pour un roman que j'ai beaucoup aimé. Pour cette rentrée littéraire, et si c'était une nuit, ce qui vient de paraître aux éditions Stock. Puis nous parlerons un tout petit peu d'un autre livre que j'ai aussi beaucoup aimé, qui s'appelle Ethnomythologique, petits objets du quotidien. Et oui, ces petits objets qui nous suivent partout, c'est aussi paru aux éditions Stock. Toby Nathan, bonjour.
Bonjour.
Alors, on s'était vu pour votre précédent roman, oui. Je crois. Hein, on avait eu une petite discussion. Et même...
Oui, je me souviens, c'était bien agréable.
C'était bien agréable. Hein.
Oui.
Et puis là, j'ai lu, alors avec grand bonheur, « Et si c'était une nuit ». D'abord, j'ai adoré le titre, parce que vous qui êtes un conteur, je trouve que tout de suite, on est dans la tonalité de la mythologie, de la nuit et de la parole. Et il y a trois thèmes, je pense, dans votre livre. C'est l'enfance, l'exil et le départ. Est-ce que je me trompe ou... Parce que c'est vrai, je me suis posé la question si c'était ce roman n'était pas aussi le roman de votre vie. Parce que un roman, est-ce que c'est pas une pierre d'achoppement de tous vos écrits, Toby Nathan ?
Alors, c'est à la fois un livre qui me tient beaucoup à cœur. Je l'ai longtemps mûri. Ça fait très longtemps que je me dis que j'ai envie de parler de cette époque. Et puis à un moment, c'est sorti, quoi. Et après, ça s'est écrit comme ça. C'est un livre important pour moi, c'est vrai.
On le sent à la lecture, on sent... Je dirais presque, c'est comme un élixir de jouvence. On sent que... Mais c'est vrai, il y a une sorte d'ébullition, vous revivez votre jeunesse.
C'est ça. C'est-à-dire que ça raconte mai 68, ça commence là, quoi. Et si c'était une nuit, c'est cette nuit, c'était la nuit du 10 au 11 mai 1968, cette nuit, la première nuit des barricades, et bien sûr, je raconte cette nuit que j'ai vécue, hein, et en même temps, c'est une sorte de course. Quelqu'un qui a, comme s'il avait la mort aux trousses, quoi, et qui court, jusqu'à ceux qui rencontrent son destin, quoi.
Exactement. Est-ce qu'on pourrait en faire un film ? Il y a une sorte, oui.
Faites un appel au cinéaste.
Non, mais c'est vrai.
Je serais ravi.
Parce que lors de cette nuit, il y a des tonnes de personnages, la Sorbonne, enfin, il y a des lieux, c'est absolument. On sent que le romanesque aussi, par mai 68, vient à vous.
Alors, c'est vrai que j'avais dans l'idée, mais bon, j'ai parfois des sentiments grandiose comme ça. J'avais dans l'idée Fabrice Del Dongo à Waterloo, vous voyez, des personnages comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui à la fois est là parce qu'il doit être là et en même temps qui se demande qu'est-ce qu'il fout là, quoi, quand même, hein. Et donc, c'est-à-dire j'étais engagé complètement en mai 68, mais en même temps j'étais étrange, je me sentais étrange, je me sentais pas vraiment à ma place. C'est un peu ce que je raconte pendant le début, au début en tout cas.
Oui, on peut dire que c'est un roman d'apprentissage, ou ça vous dit
19e
siècle.
Complètement. C'est un roman d'initiation, on va dire. Et c'est. Bon, j'ai mis ça dans une nuit, mais en fait, ça a duré quelques temps quand même. Quelques mois, on va dire. Au moins quelques mois, cette initiation.
Oui, ça a duré, et c'est vrai que votre personnage, qui est vous-même, hein, enfin bon, voilà, mais il est jamais à sa place, c'est pour ça que je vous parlais de l'exil, hein, parce que là, il y a une sorte, je dirais que c'est un roman aussi où ça pourrait être un... Il y a cette notion de voyage sans billet de retour, c'est pour ça que vous parlez du temps, du top chrono, enfin, il n'y a pas de billet de retour pour vous, alors, et on le sent, c'est très fort, hein, quand même, même malgré l'ébullition de mai 68, on sent que vous êtes donc un jeune billet, tout ça, enfin, votre seconde vie, mais on sent que vous... Voilà, vous,